Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons cette semaine le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir Jean-Marie Le Guen.
Bonsoir.
Vous êtes au gouvernement depuis la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre, chargé donc de faire le lien entre ce gouvernement et une majorité parfois peau de chagrin. On ne trahira pas votre pensée en disant que vous êtes plutôt social-libéral, en tout cas sur la ligne Valls. Vous êtes d'accord, social-libéral ?
Non, social-libéral, non, pas du tout. Je suis pour un État fort, je suis pour une économie qui fonctionne, mais je suis pour un État fort.
À mes côtés, pour vous interroger, Jean-Marie Le Guen, Roselyne Fèvre de France 24, bonsoir.
Bonsoir Florent.
Et Lilian Alemania de Libération, bonsoir également.
Bonsoir.
La politique française se joue pour partie à Bruxelles. On attend vendredi le verdict de la Commission européenne sur le budget de la France. Et la France, nous dit-on, devrait échapper à des sanctions, gagner un sursis de quelques mois. La Commission attendra le mois de mars pour dire si le budget de la France est sincère. Est-ce que, première question Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il y a une indulgence de Bruxelles vis-à-vis de la deuxième économie de la zone euro ? Est-ce qu'il vaut mieux être la France que le Portugal finalement ?
Non, je ne crois pas du tout qu'il faille voir les choses comme ça pour deux raisons. La première, c'est que nous respectons les traités simplement. Il a toujours été entendu qu'il y aurait des aménagements possibles en fonction des cycles économiques. Et la deuxième idée, c'est que ce que nous le faisons avec chaque jour un peu plus d'institutions qui nous donnent raison dans notre vision de la politique économique. C'est-à-dire, par exemple, je lisais encore aujourd'hui une publication de l'OCDE, qui n'est pas connue pour son laxisme de principe, qui dit le budget, le policy mix français, c'est-à-dire l'adaptation budgétaire française est juste dans la mesure où elle est à la fois...
C'est-à-dire la réduction des
réduction
dépenses
qui se fait à un rythme compatible avec la situation de l'économie et de la croissance et la bonne politique. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est une réflexion maintenant qui irrigue l'ensemble de la zone euro, même si c'est pas avoué, parce que évidemment, il y a des points de vue psychologiques différents, mais par contre, la perspective, le rythme risque de déflation dans lequel nous sommes est maintenant assez largement documenté, comme on dit chez les scientifiques.
Voilà, beaucoup d'avis rejoignent la position française. Alors, ce que dit aussi le rapport de l'OCDE, il vous donne raison sur cette première partie, mais il dit aussi il faudra faire davantage de réformes structurelles. C'est un discours qu'on entend depuis longtemps à Bruxelles et à Berlin.
Et à Paris.
Et à Paris également. C'est un discours que vous tenez, vous, Jean-Marie Le Guen, au sein du gouvernement. Il va falloir d'autres réformes structurelles, et lesquelles ?
C'est le discours que tient le président de la République, le Premier ministre, et nous sommes nombreux, Emmanuel Macron et d'autres, à dire qu'il faut des réformes structurelles pour libérer l'activité. Ça sera principalement, d'abord une première réforme, celle qui a été votée cet après-midi, sur les régions, qui va simplifier, donner plus de force économique. Une autre réforme de l'organisation territoriale qui aura lieu au mois de mars. Et puis, un certain nombre de lois qui sont très importantes. La loi dite activité-croissance, portée par Emmanuel Macron, qui va permettre de libérer de l'énergie économique qui est aujourd'hui trop souvent bridée par des corporatismes, par des rentes, par de mauvaises habitudes. Donc, une capacité à fluidifier cette économie, à lui laisser de l'énergie. Et puis, il y a d'autres réformes, évidemment. Les réflexions qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur la question du marché du travail, toutes ces questions participent d'une volonté de la France d'agir pour donner plus de dynamique à son économie.
Alors, il y a notamment une réflexion autour des 35 heures. Emmanuel Macron, il en parle souvent, des 35 heures, la durée hebdomadaire du temps de travail, la réforme Jospin. Alors, mais il se prête assez bien à ce jeu des questions-réponses. On va l'écouter, le ministre de l'économie. Il le dit, il ne veut pas mettre les 35 heures sur un piédestal.
Les 35 heures ne sont en rien un frein à l'adaptation de notre économie. J'ai eu l'occasion de le dire, les 35 heures, ça a été une conquête sociale et c'est un progrès. Maintenant, ce qui est dans la loi, pas forcément applicable partout, en toutes circonstances, de la même façon, de manière intelligente. Quand il y a un accord majoritaire, quand les partenaires sociaux se mettent d'accord, il y a tout à fait la possibilité de pouvoir adapter les règles aux conditions de l'entreprise, de manière juste pour les salariés et pertinente pour tout le monde.
Voilà, Emmanuel Macron au micro de notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardès, puisque le ministre de l'économie était en Corée du Sud. À quoi ça sert finalement ce genre de déclaration? On comprend pas très bien. Est-ce que c'est pour préparer les esprits ou, si rien ne change, pourquoi en parler?
Mais les choses changent. C'est vrai que tout ça renvoie à des choses qui sont parfois un peu compliquées, parce que le droit du travail n'est pas forcément extrêmement bien connu, et même les réformes qui ont été faites il y a encore quelques mois ne le sont pas, en tout cas par les commentateurs, à savoir que la fameuse loi Annie, qui a été une loi sur la sécurisation des parcours professionnels, après un accord avec les organisations syndicales et le patronat, est une loi qui dit qu'en substance, quand une entreprise se trouve dans une situation économique difficile, s'il y a un accord majoritaire des salariés, il est possible de déroger pendant un certain temps aux conventions collectives, et y compris de faire évoluer, d'avoir une discussion sur la question du temps de travail. Alors, c'est ce que dit finalement Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que cette loi fonctionne complètement? Est-ce qu'il faut pas encore l'améliorer? Ce sont des réflexions qui sont portées par les partenaires sociaux dans leur véritable discussion. Je parle pas dans les déclarations officielles. Et donc, ce sont des réflexions qui ont leur légitimité. En fait, la question du marché du travail, si elle est abordée d'un point de vue idéologique, comme c'est le cas français, on se trouvera avec les positions du MEDEF, qui sont autant de déclamations qui sont des provocations pour l'essentiel, ou bien des postures également qui existent chez certains à gauche, pour qui finalement hier c'était encore mieux que demain et mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un espace pour être plus pragmatique. L'économie n'est plus la même que celle qui existait il y a 30 ans. Les emplois, il y a encore 30 ou 40 ans, on avait un emploi à vie, c'est plus le cas aujourd'hui. La réactivité de l'économie, elle est là. La mondialisation, elle est là. Donc il faut y faire face, mais il faut y faire face dans le dialogue social, dans le respect des droits des salariés.
Alors, une question d'abord de Lilian Alemania de Libération, ensuite Rosine Feb, France 24.
Qu'est-ce que ça veut dire être plus pragmatique sur cette question du marché du travail, tout simplement? Il faut quoi? C'est supprimer le CDI? C'est trouver un contrat unique? Il y a cette idée-là qui avait été aussi évoquée.
Non, c'est une idée qui a été évoquée, effectivement, et qui est d'ailleurs évoquée depuis longtemps, y compris par Jean Tirole, prix Nobel de l'économie français, qui dit, il y a d'un côté... C'est des choses qui sont décrites depuis assez longtemps. Ce qu'on dit, les gens qui
sont...
pas
dans le programme du Parti Socialiste, ni du candidat François Hollande.
Non, c'est pas dans le programme du Parti Socialiste, mais toute la réalité n'est pas dans le programme du Parti Socialiste. Si vous voulez me le faire dire, je vous le dis très très volontiers. Donc nous n'enfermons pas la réalité dans un programme, nous sommes là, et puis c'est Karl Marx qui disait, vaut mieux un pas en avant que 1000 programmes, dans le critique du programme de Gotha. Je dis ça pour que vous voyez que quand même on a des références. Bien. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire être plus pragmatique?
Être plus pragmatique, c'est de se dire que quand quelque chose fonctionne pas ou qu'il y a besoin de l'adapter, il faut regarder les questions telles qu'elles sont posées, trouver des solutions qui soient des solutions gagnantes. Voilà.
Quoi les rigidités aujourd'hui? Vous considérez
Il y a des rigidités dans le marché du travail, mais qui sont pas forcément parce qu'il y a des CDI. Mais même si on constate que plus de 90% des embauches aujourd'hui se font en CDD, donc vous voyez, on prétend toujours défendre des garanties qui sont des garanties relativement formelles, puisque dans la réalité, elles ne s'appliquent pas. Moi, ce que j'aime, c'est des garanties qui s'appliquent de façon réelle. J'étais cet après-midi à un colloque sur la question de l'emploi. On parle de plus en plus, et vous en entendrez parler, je pense, dans les jours qui viennent, avec le rapport Pisani-Ferry Anderlin. Eh bien, l'idée d'avoir, par exemple, que les droits des salariés soient plus attachés à leur personne qu'à leur statut, que l'on puisse passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, voire un statut de fonctionnaire, de salarié, d'indépendant. C'est ça la réalité de la ville aujourd'hui. C'était pas imaginable il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous étiez fonctionnaire, salarié, indépendant. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens qui sont chargés de remettre, par exemple, des chômeurs dans l'emploi, etc., ils vont vous dire, il y avait des salariés qui sont devenus chômeurs, malheureusement, et qui ensuite ont voulu lancer leur propre projet, leurs propres entreprises. Voilà des réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Il faut s'adapter à ça. Et pour ça, il faut savoir avoir une réflexion sociale riche, être pragmatique. Pas se cacher derrière des mots qui ne veulent rien dire, parce que c'est des généralités qui ne correspondent pas à la réalité des gens.
Alors, Roselyne Fèvre, soyons dans le concret, puisque vous parlez de réflexion et vous parliez du rapport de Pisani-Ferry, donc... Il a fait un rapport, effectivement, c'est un économiste, hein, avec un Allemand, Henrik Anderlein, qu'ils vont remettre
jeudi au gouvernement.
Voilà,
au gouvernement français et au gouvernement
et allemand. Et alors, il est question, alors c'est selon le journal Le Spiegel, il y aurait deux préconisations assez explosives, on vient d'en parler.
Pour la France.
Pour la France, les 35 heures et le gel des salaires.
Est-ce que je peux vous répondre tout de suite ? C'est un faux absolu. Ces deux informations sont totalement fausses.
Le Spiegel écrit n'importe quoi.
Excusez-moi, ça peut arriver.
Je vous pose une question.
Et alors, je suis désolé de vous décevoir. Ce sont des informations fausses. Vraisemblablement, parce que vous êtes un petit peu informé ou vous avez vraisemblablement manipulatoire. Vraisemblablement plutôt manipulatoire.
Vous l'avez lu le rapport déjà ? Vous savez ce qu'il y a dedans ?
Je vous le dis.
Ouais. Vous l'avez
oui,
lu,
effectivement.
Voilà. Vous l'avez
c'est
lu.
Vrai que ces deux
suffisamment
personnalités
pour vous dire ça.
Disent que
si
c'est pas
je
du
vous
tout le
dis.
Sens du rapport.
Voilà. Vous pouvez me dire, ah, mais vous êtes trompé, monsieur Le Guen. Bah non, je ne crois pas.
Alors, l'intérêt, si on écoutait donc bien sûr cette réflexion sur le gel des salaires, bon, effectivement, ça fait un peu années 50, mais ça voudrait dire que si on gèle les salaires, on gagne de la compétitivité face à l'Allemagne. Et certains disent, dans le fond, ça fait 30 ans qu'on a choisi l'emploi plutôt le pouvoir d'achat plutôt que l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui ça se discute ?
Bien sûr. Alors bien que ça ne soit pas ces questions-là et ces slogans-là ne soient pas dans le rapport Pisani-Ferry-Anderlin, je vous posais une vraie question qui est de savoir quel est le choix de la société française. Est-ce que la société française choisit de privilégier l'emploi par rapport à
c'est ce que fait François Hollande en tout cas.
Aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous essayons de faire, mais je vais aller plus loin et peut-être... Bon, par exemple, on voit bien qu'une partie du CICE dans certaines entreprises est utilisée pour, comment dirais-je, abandonner la problématique du dialogue social, de l'investissement et de l'emploi au profit d'une petite rétrocommission, si j'ose m'exprimer ainsi, du CICE sur le salaire. Et hop, c'est un infini pour le dialogue social.
Parfois sur les actionnaires. Bien,
non, beaucoup moins. En l'occurrence, pas vraiment. Vous confondez la marge des entreprises et les actionnaires. Mais la redistribution, l'affaire du CAC 40, si vous voulez, c'est de la mauvaise foi totale. Parce que les entreprises du CAC 40 qui ont augmenté leurs bénéfices et leurs dividendes, ils l'ont fait avec ce qu'ils, pour l'essentiel, à 90%, ce qu'ils ont gagné à l'international. Bien. Mais je mets ça de côté. Mais comme la polémique a eu lieu, c'est bien qu'on ait pu l'éclairer. Mais maintenant, je reviens à ce sujet qui est effectivement d'une certaine forme, comment dirais-je, d'atrophie du dialogue social qui fait que quand il y a un tout petit peu de marge, certaines entreprises qui ont les moyens distribuent un petit peu de pouvoir d'achat. Et y compris le comble vaudrait aujourd'hui que l'effort fait par l'État, par le contribuable, aboutisse à des distributions inégales de pouvoir d'achat et relativement et incertaine. Bon, alors que la question qui est posée, c'est la question de la remusculation de nos entreprises avec plus d'investissements et plus d'emplois. Donc oui, il y a un problème dans la société française, c'est que au-delà des politiques menées par les uns ou pour les autres, il y a, je crois moi, à l'idée que la société française a pris de mauvaises habitudes, c'est-à-dire de faire le choix d'une certaine d'un certain abandon par rapport une certaine démobilisation par rapport à la question du chômage. Et c'est ça qu'il faut réformer. Il faut aller jusqu'au bout sur la question du chômage, parce que quand on a des débats de politique économique comme nous en avons beaucoup au Parti socialiste et au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on peut débattre de savoir si la croissance avec telle ou telle politique économique passerait de 1 à 1,5%. C'est ça l'enjeu des choses. Ça ne résout pas la question du chômage de masse dans ce pays. Donc il faut bien que nous acceptions de regarder la vérité en face, c'est comment on traite le chômage de masse dans ce pays.
Donc aller jusqu'au bout, ça veut dire aller où précisément, Jean-Marie?
Ça veut dire par exemple qu'il faut accorder ce que nous faisons, je crois, mais il faut le mettre dans la tête de nos compatriotes, beaucoup plus de poids sur l'éducation, parce que en fait, on s'aperçoit que quand on a 15% des gens qui sortent du modèle éducatif sans formation, ce sont potentiellement massivement des chômeurs de masse. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est ce dont nous parlions précédemment, la question du marché du travail, la question de faciliter la mobilisation des salariés, leur donner les moyens d'acquérir des formations. formation. Vous savez comme moi que la formation professionnelle est insuffisamment distribuée sur la problématique des chômeurs. On pourrait parler du fameux DIF, vous savez, le droit à la formation individuelle des salariés, qui a été essentiellement distribué vers des cadres supérieurs, et que les gens les plus fragiles par rapport à l'emploi n'ont pas bénéficié de ce droit qui était un véritable droit, mais dont la société ne s'est pas saisie.
Mais vous n'avez pas le sentiment que vous faites des demi-mesures dans tout?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois. Si les mesures radicales, ça consiste ce que beaucoup de Français craignent, en partie à juste titre, c'est-à-dire l'abandon des droits sociaux sous prétexte de l'adaptation à la mondialisation et au combat dans la mondialisation, ce n'est pas notre politique. Nous ne sommes pas pour l'abandon des droits sociaux. Nous ne sommes pas pour une dérégulation. Nous sommes pour opérer des mutations pragmatiques qui font que à droit, j'allais dire constant, en tout cas en termes de volume, on est capable de remuscler la société française et de lutter contre cette fatalité du chômage qui existe de masse, qui existe depuis 30 ans.
Jean-Marie Le Guen, le pragmatisme que vous revendiquez dans la tête de beaucoup de Français, il rime avec libéralisme.
Mais c'est un problème chez certains à gauche, je ne vous le cache pas. Je veux dire, il y a des gens...
La gauche, c'est votre camp.
Dans mon camp, il y a des gens qui ont des préventions, qui pensent que tout est idéologique, et qu'il suffit de se fixer dans le déni de la réalité, de refuser les problèmes au nom d'une volonté politique et idéologique. Nous savons que ça ne marche pas. Et ces gens, vous avez un sondage qui est sorti aujourd'hui dans un journal du soir, me semble-t-il, montrant que plus de 80% des Français mettent leur espérance première dans l'entreprise. Bon, alors est-ce que les gens de gauche qui ont des réticences par rapport à ça vont se réveiller et vont se dire, bien, peut-être que nos concitoyens ne sont pas des abrutis férus d'ultralibéralisme, mais que quelque part, dans la création de valeur à l'intérieur de l'entreprise, il y a un vrai partenariat à mettre en place, et qu'effectivement, une gauche pragmatique, qui n'est pas pour l'abandon des droits sociaux, mais pour une adaptation des droits sociaux à produire plus de valeur, plus d'emplois, ça mérite d'être tenté plutôt que de se réfugier dans des postures qui ne sont que des conservatismes.
Alors, le conservatisme, si l'on vous entend, est plutôt à gauche en ce moment.
Oh, non, je pourrais vous parler du conservatisme de droite. Vous m'avez un petit peu orienté sur ce terrain-là, et comme je ne refuse pas le débat, je vous répondais.
Très bien. Je voulais revenir sur le rapport de l'OCDE dont on parlait en début d'émission, puisqu'il il indique également que la France est championne du monde de la dépense sociale. 32% du PIB consacré aux aides sociales, aux allocations chômage, aux dépenses de santé. Est-ce que c'est trop, selon vous? Est-ce que ce chiffre doit baisser et doit faire partie des efforts structurels que la France doit engager?
En tout cas, il nous interroge, ce chiffre. Parce que, en plus, le travail de l'OCDE est remarquable, parce qu'ils ont fait le cumul de dépenses publiques et de dépenses privées sur les questions de nature sociale, la maladie, la retraite, etc. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que même après ce calcul-là, la réintégration des dépenses privées, qui était souvent un argument avancé à juste titre par certains économistes de gauche qui disent « Oui, mais vous comptez pas chez les autres le fait que la retraite est par capitalisation, etc. ou l'assurance santé est privée. » Eh bien, on s'aperçoit que la France reste numéro un. Et ça pose quoi comme problème? C'est pas qu'il y a trop de dépenses sociales. C'est qu'elles ne sont pas assez productives. Parce que ces dépenses sociales maximales n'aboutissent pas à des résultats à la hauteur de ce que l'on devrait attendre de l'argent qui y est mis. C'est-à-dire que sur l'éducation, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, sur la santé, on a encore des inégalités de santé qui sont trop importantes comparées à d'autres pays, sur les inégalités d'accès à d'autres domaines, je pense à tout ce qui est le logement, l'environnement, etc., on est encore très en retard, et donc il y a des inégalités en France qui sont trop importantes au regard des efforts qui ont été faits en matière budgétaire. Donc je ne pense que la question qui est posée, c'est pas la diminution de ces dépenses pour les diminuer pour des raisons idéologiques, mais par contre conforter le système tel qu'il est, l'assurance chômage, la sécurité sociale, l'assurance maladie, sans poser des questions de tout l'argent qui est dépensé, eh bien ça aboutit à mon avis à un essoufflement du système, c'est-à-dire beaucoup d'argent et finalement des résultats. Et parmi la révolte, la RG fiscale d'un certain nombre de nos concitoyens. Il y en a qui sont contre la fiscalité pour des raisons d'inégalité, de libéralisme, de tout ce que vous voulez. Mais il y en a beaucoup qui seraient prêts à payer, qui sont prêts à payer pas mal d'impôts, à condition qu'ils voient des résultats tangibles. Et là, en ce moment, la machine est fatiguée, c'est pour ça qu'on la répare.
Et pour l'instant, c'est vrai que les résultats ne sont pas très visibles. On en reparle dans la seconde partie de Mardi Politique, dans quelques minutes avant les informations. A tout de suite.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Seconde partie de Mardi Politique, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, en compagnie également de Roselyne Febvre de France 24 et Lilian Alemania de Libération. Défiance politique, alors que François Hollande, depuis 2 ans et demi, nous parle beaucoup de confiance. Eh bien, la défiance des Français à l'égard de la politique et du personnel politique ne cesse de grandir. On va parler dans quelques minutes de la République exemplaire, mais il y a d'abord Florange, les ruines de la sidérurgie française dans l'est de la France. Florange, François Hollande y est retourné hier pour soutenir le plan de reconversion du site. Florange laissera des traces dans le quinquennat avec la fermeture des hauts fourneaux. C'est l'avis d'Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, votre ancienne collègue Jean-Marie Le Guen, redevenue députée socialiste. Elle s'exprimait hier au micro d'Anissa El Jabri lors de la visite à Florange de François Hollande.
Florange, c'est plus qu'un symbole, je crois que ça a été un tournant du quinquennat, un tournant aussi dans la crise de confiance des Français vis-à-vis de la parole politique. Et même si je ne mésestime pas ce qui a été obtenu, 180 millions d'euros d'investissement et 629 salariés tous reclassés, malgré tout, la défaite, elle est dans la fermeture des hauts fourneaux. Et je crois que si à ce moment-là, la solution qui a été viable, qui avait été montée, organisée d'une nationalisation temporaire, avait été retenue, eh bien aujourd'hui, d'abord ici, évidemment, il y aurait de l'activité, mais surtout, je pense que le quinquennat aurait un autre visage et les Français auraient davantage confiance dans la politique.
Jean-Marie Le Guen, votre ancienne collègue Aurélie Filippetti, vous en pensez quoi de ce diagnostic? La défiance des Français?
Non,
notamment mais à Florange.
Le constat est très exagéré sur la théorisation générale. Le débat est pas forcément illégitime. Moi, j'étais de ceux qui étaient intéressés par le débat sur Florange à l'époque.
Bien. Le débat sur la nationalisation.
Oui, nationalisation, etc. Je pense que c'était pas un débat illégitime. Bien. Il a été tranché autrement. Je pense qu'in fine, c'était plutôt...
On s'est surtout rendu compte que c'était un moyen de chantage contre Mittal et que François Hollande n'y a jamais cru un seul instant.
Non, parce qu'on fait pas de chantage face à une multinationale qui a d'autres sites en France, etc., etc. Enfin, on va reprendre tout le dossier que vous voulez, mais je veux dire par là. Il y avait une option nationalisation, qui était effectivement une... Bon, et il y avait une option, j'allais dire, négociation, compromis, relance du site sur d'autres bases. C'est cette option qui a été prise. Je pense qu'elle était plutôt juste. Bien. Mais de là à dire que d'une option à l'autre, on passe d'un monde à l'autre, ça n'a pas de sens, franchement. Moi, ce que je constate, c'est que... Alors que l'opposition se fait avec Gandrange, n'est-ce pas, qui était en Sarkozy 2008, qui dit « je viendrai, je vous sauverai », etc.
Donc,
qui
n'y met plus fermé, les pieds.
Non, mais Hollande, il revient. Ouais. Hollande, il revient. Il met de l'argent, il se mobilise, il essaye de négocier avec ArcelorMittal, avec d'autres, avec la Commission européenne, pour faire qu'il y ait à la fois un suivi social, c'est pas suffisant, mais aussi un suivi industriel. Alors, voilà, il y a un accord qui a été trouvé, ça avance, c'est pas extraordinaire parce que c'est lent à redémarrer, mais on s'accroche, effectivement, et on fait avancer les choses. Voilà, bon... Sur l'affaire Florange, moi, ce que j'ai à dire, pour le reste, faisons attention de pas réécrire l'histoire 18 mois après, parce que finalement, ce choix s'est fait au sein du gouvernement en novembre 2012.
Aurélie Filippetti
en a tiré les conséquences en septembre 2014. Donc, ça met.
Mais est-ce que l'erreur de base de François Hollande, c'était un propos de campagne, hein, c'était de promettre de ne pas fermer les hauts fourneaux et en quelque sorte de permettre la sauvegarde d'un passé dépassé. Et dans le fond, aujourd'hui, vous voyez bien que la réussite, c'était ses reconversions.
Écoutez,
finalement, c'était bien de ne pas tenir ses promesses?
Non, je pense qu'écoutez, dans la promesse qui était faite, c'était on ne vous laissera pas tomber. Bien. Tout a été fait pour essayer
oui,
de. Non, mais écoutez,
non, mais...
on peut. Non, mais. on ne vous laissera pas tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. Tout c'est a été fait pour essayer de faire repartir les hauts fourneaux. Il se trouve, pour des raisons...
C'est pas ça,
je ne vais pas revenir. Est-ce qu'il fallait dire les hauts fourneaux?
Mais non, mais
il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça seulement. Il a dit, globalement, je ferai tout pour lancer les hauts fourneaux. Et par ailleurs, je ne vous laisserai pas tomber. Et donc, oui, mais non, mais il a sa promesse. Et c'est pour ça que, d'une façon très, très précise et avec courage, il revient pour dire, écoutez, voilà ce que j'ai fait. Il rend compte, il est en responsabilité. Ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas la petite lumière du haut fourneau qui donne la vraie vie des gens sur place, la vraie vie du genre. Alors même, je peux, vous voyez, moi je vais même vous dire autre chose.
La reconversion,
il y a des choses qui
ne
sont pas parfaites.
Oui.
Non, mais,
il y a quelque chose à voir.
Il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Par exemple, les sous-traitants. Bien. Néanmoins, donc, il y a de la douleur sociale. Mais on a quand même un pouvoir, une responsabilité où on intervient, on va jusqu'au bout des choses, on fait des choix, on laisse pas tomber les gens. Je vous dis pas qu'on a 100% raison, moi je suis pas dans la politique presse-bouton, on dit quelque chose, ça se fait immédiatement parce que tout d'un coup monsieur Mittal décide que... Non, ça fait tout ce qui était possible pour relancer les hauts fourneaux. Malheureusement, ça n'a pas été possible. En tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et ensuite, on met de l'argent pour faire un acier particulier qui marche pour les voitures, plus léger. On met un centre de recherche. On met un truc d'enfouissement des gaz de CO2. On fait plein de choses qui relancent de l'activité, de l'emploi. Et voilà. Et je pense que globalement, la promesse est respectée. Maintenant, ça ne donne pas... Tout le monde n'est pas content parce qu'il y a effectivement des gens qui voudraient qu'on fasse de la sidérurgie comme dans les années 30. Comme si, d'ailleurs, dans les années 30, tout allait bien.
C'est fini, la sidérurgie en France ?
Non, c'est pas fini, mais à Grandange, loin des sites... Vous savez que la sidérurgie, c'est de l'énergie. Quand vous êtes loin des sites énergétiques, c'est plus compliqué que quand vous êtes près. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements, y compris. Il y a une géographie de l'industrie qui est différente de celle du 19e et du 20e siècle. C'est douloureux pour les gens concernés. Moi, je le conçois. Mais on se bat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la promesse, on n'est pas dans le « je mets des croix partout ». Alors, est-ce que dans la parole politique, est-ce que les campagnes présidentielles, on n'est pas amené, sous la pression, parfois des médias, à cocher des cases ? Peut-être, c'est une question, c'est une interrogation. Moi, j'ai constaté que toutes les campagnes présidentielles, plus exactement celles qui ont eu lieu depuis 10 ou 15 ans, on les commence avec des grands projets, et on termine les deux derniers mois, les trois derniers mois, avec « qu'est-ce que je fais dans les trois mois ?» C'est un vrai sujet d'interrogation sur le côté... Quand on a voté pour l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est qu'on voulait qu'il y ait un stratège et que choisir sur des stratégies pour notre pays. Stratégie politique, stratégie industrielle, stratégie sociale. Bon, et on s'aperçoit que par un biais un peu faussé de la médiatisation, c'est vrai que les élections présidentielles depuis 10 ans, elles se jouent sur les promesses à 3 mois plus
et
que sur les visions
on
à
a rajouté, on a ra... pardon, on a écourté le mandat. On est passé du septennat au quinquennat.
Ça aussi, c'est des questions légitimes qui sont en débat, bien sûr.
L'élure Alemania de Libération.
Mais est-ce qu'on peut croire, vous parlez de la parole de François Hollande, mais il y a aussi la parole de Lakshmi Mittal. Vous avez un député européen, Edouard Martin, qui lui a dit dès le début, on ne peut pas croire Monsieur Mittal, Monsieur Hollande, il ne faut pas signer, et Monsieur Hérault, il ne faut pas signer, parce qu'on ne croit pas Monsieur Mittal. Il y avait un projet qui est un projet écologique local, qui n'a pas été tenu et qui a été balayé quelques semaines après l'accord.
Mais écoutez, est-ce que j'attends que Monsieur Lakshmi Mittal soit un être avec une moralité où il s'engage ? Moi, je ne regarde pas ça. Je ne crois pas qu'il y a des gentils et des méchants. Je suis pas bon. Donc, je dis simplement qu'avec le rapport de force qui était le nôtre, qui n'était pas un rapport de force absolu. Bien, on a obtenu un certain nombre de choses, y compris de Monsieur Mittal. Et aujourd'hui, la CFDT auquel appartient, appartenait Edouard Martin, puisque maintenant il est député, mais a signé cet accord. Donc voilà, mais c'est des compromis. Moi, je vous dis pas que c'est des absolus, et je ne crois pas que Monsieur Mittal mérite la bénédiction du pape François. C'est pas le sujet. Mais on n'est pas dans cette croyance-là. On est dans des rapports de force et dans des compréhensions avec des multinationales qui aujourd'hui peuvent déplacer des sites de production d'une façon tout à fait considérable. On peut le regretter. Alors il y a une solution. On construit des murs. C'est Madame Le Pen, parce qu'on parle jamais de Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle nous fait régresser pour les travailleurs concernés, hein, ceux qui parfois sont tentés de voter pour Madame Le Pen parce qu'ils croient qu'on va mettre
Florent.
Des barrières. Mais exactement, et tout à fait. Eh bien, ça sera la catastrophe sociale, économique, terrible.
une régression sociale comme ils ne l'imaginent pas. Pas de quelques pourcents, mais de dizaines de pourcents de leur salaire, de leur emploi. Bref, et avec toutes les violences qui iraient avec. Donc, voilà, nous, on fait face à la mondialisation, on essaye de construire des outils européens, français, et c'est vrai que de temps en temps, et alors après, on peut nous interroger sur 30 ans, sur le chômage de masse, je reviens à la question précédente que nous avions traitée il y a quelques instants, et qui est parfaitement une interpellation légitime. Mais nous essayons de donner des explications et nous essayons de montrer le chemin qui est le nôtre. C'est un chemin réformiste, un chemin pragmatique. C'est long, on aimerait des résultats tout de suite, je le comprends. On peut pas les donner.
Alors en attendant les résultats, Jean-Marie Le Guen, on sent bien qu'il y a de la défiance, je le disais en début d'émission, dans la vie politique et notamment dans votre propre camp. Défiance à l'égard, y compris, du président de la République, François Hollande. Il n'est plus le candidat naturel des socialistes pour la présidentielle de 2017. Est-ce qu'il faut une primaire pour désigner le futur candidat socialiste en 2017?
Très sincèrement, c'est pas une question qu'on peut se poser si on est en responsabilité politique à gauche aujourd'hui. La question qu'on a, c'est de serrer les coudes,
certains
d'avancer.
Certains la posent à gauche, oui, y compris chez vos amis.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que cette question est une question abstraite, qui n'a rien à voir avec les éléments concrets. Moi, je suis là, je suis à 2 ans et demi d'une élection, et c'est pas que l'élection qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans ce pays, avec un Front National qui se promène entre 25 et 30%, et que j'ai envie que le chômage baisse, j'ai envie que mon pays retrouve de la force économique, j'ai envie que le Front National redescende, et voilà. Et après, je me poserai des questions, parce que je fais de la politique, et il y a des élections, et on se posera cette question au moment où c'est opportun. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Les lures, les manières.
Mais justement, cette question de primaire, vous parlez du Front National à 25%, ça peut être aussi une manière de n'avoir qu'une seule candidature à gauche, et d'éviter un 21 avril 2002, la multiplication des candidatures à la gauche du PS, et permettre, y compris à François Hollande, d'arriver avec l'ensemble de la gauche dès le premier tour.
Alors, voilà une question tout à fait intéressante, qui est préalable au débat sur la primaire, qui est la question stratégique. Bien. Alors, je ne sais pas si on va la voir maintenant, parce que si je vous réponds sur cette question-là, ou si je donne quelques éléments de réflexion, ça va être un peu long, mais tout simplement pour vous dire que l'idée d'une candidature commune de toute la gauche me semble peu réaliste. C'est une litote. D'accord? Bien. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs candidatures à gauche. Malheureusement. Je me demande qui elle va concerner. Est-ce que ça ne concernera que les amis de Mélenchon? Est-ce que Pierre Laurent, après avoir crié comme il crie sur le Parti Socialiste, sera capable de porter une candidature de rassemblement à gauche? J'ai quelques doutes. Je pense même que, en fait, sa base est en train de partir chez Mélenchon.
C'est celui du Flo, Arnaud Montebourg.
Voilà. Alors après, on a non Arnaud Montebourg, je crois pas ça. Cécile Duflo, il y a une hésitation chez les écologistes. Elle est tentée, mais elle n'aura qui derrière la stratégie qui est la sienne? Personne d'autre qu'elle-même aujourd'hui.
Mais il vaut mieux une primaire pure socialiste ou une primaire socialiste écologiste?
Oh, de toute la gauche. Je pense qu'il faudra, il faut essayer. Je pense qu'il est souhaitable toujours pour la gauche de se rassembler. Maintenant, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut pas commencer à implorer des scénarios qui n'existeraient pas. Donc, pour l'instant, moi, je suis pour le rassemblement de la gauche. Plus large, voilà. Mais allons plus loin dans la réflexion de ça. Je rappelle que si on est dans cette... Je pense qu'on vous m'attirez sur ce terrain qui me passionne, mais qui n'est pas complètement d'actualité. Et en tout cas, on peut pas le poser comme ça. Mais aujourd'hui, la gauche est à quelque part entre 30 et 35%. Bon, si on parle de l'élection présidentielle, il y a un premier tour et il y a un deuxième tour. Pour être élu, la gauche devra être qualifiée au premier tour et être capable de se faire élire au second tour. Ça veut dire qu'elle sera capable non seulement d'avoir un candidat qui arrive avec un certain niveau de voix, mais en même temps qu'elle sera capable, quelque part, de faire que des électeurs de droite votent pour elle au deuxième tour. Alors après, je peux mener la conversation plus longuement, mais je pense que...
Mais on parle beaucoup de primaires à gauche. C'est un débat éminemment présent à l'UMP en ce moment entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Au fond, on se rend compte que il y a qu'au Front National où la question du leadership ne se pose pas. Est-ce que ça pose pas aussi un problème, et est-ce que ça pose pas question aux formations politiques comme la vôtre, le Parti Socialiste?
Je pense très honnêtement que toutes les formations politiques, à l'exception du Front National pour l'instant, sont en crise.
Alors pourquoi toutes. Seul le Front National échappe à la crise ?
Parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est sur une dynamique de conquête, parce qu'il s'est mis dans une posture par ailleurs dangereuse et facile, qui est celle de « je renverse la table, toutes les règles qui s'imposent aux autres ne s'imposent pas à moi », etc., etc. Et deuxièmement, pour des raisons de fond, c'est que momentanément, je pense que vous avez le Front National... Hein. Oui, bien sûr. Mais vous avez le Front National du Sud et le Front National du Nord qui sont momentanément alliés. Or, ces deux fronts nationaux ont des intérêts économiques et sociaux totalement opposés. Bon, simplement, par une paraphrase de pure radicalité politique, on fait semblant qu'il y a l'unité entre Madame Le Pen Marine et Madame Le Pen Marion Maréchal Le Pen. En gros, je simplifie d'ailleurs un peu les choses, mais enfin, en gros, on voit bien qu'entre cette droite extrêmement réactionnaire, représenté par ce Front National du Sud, comme on le dit un peu rapidement, et ce Front National pseudo-populaire représenté... il y a des contradictions économiques totales, il y a des contradictions sociales. Simplement, elles sont cachées derrière une radicalité politique de façade.
Cette crise politique, y compris, est-ce qu'elle touche les institutions ? Et on a parlé de changement institutionnel. Est-ce que, selon vous, il faut changer aussi les règles du jeu institutionnel, mettre de la proportionnelle, aller vers un régime où on est plus sous forme de coalition qui permettrait aux différents partis ou aux différentes personnes dans les partis de d'être sur le fond avec d'autres partenaires politiques ?
Je pense sincèrement que la question institutionnelle est une question qui est une question rampante, est une question présente.
Est-ce qu'il faut mettre de la proportionnelle, par exemple ?
On parle de 10%.
Oui. Non, mais attendez, je n'ai pas de modèle à proposer. Et
vous n'avez pas d'informations ?
Ni informations, ni modèles. Je ne crois pas en plus que, si vous voulez, on dessine-moi une belle institution et je crois qu'il y a une dialectique entre le mouvement de la politique et la réflexion institutionnelle. Vous savez, la République en France, elle s'est faite par hasard dans un amendement, un compromis entre des monarchistes modérés et des républicains. C'est comme ça, par un petit amendement d'une loi constitutionnelle, que la République est venue en France. Et si on a été pour le mandat de 7 ans, c'est parce qu'il y avait un désaccord entre ceux qui étaient pour le mandat de 5 ans et le mandat de 10 ans, et la synthèse s'est faite à 7 ans, à l'époque. Donc, je suis assez pragmatique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir en tête la problématique institutionnelle, mais je pense que la problématique institutionnelle, elle est le débouché d'une situation politique.
Mais le pragmatisme, ce serait justement ça.
Mais je pense que cette question, elle taraude la société politique. Et donc, chaque chose viendra en son temps. Mais nous n'avons pas encore passé le cap de la compréhension politique de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire, en gros, ces trois tiers. Je schématise d'une façon un peu grossière, mais ces trois tiers entre l'extrême droite, la droite et la gauche. Voilà. Et on n'est pas encore, on n'a pas psychologiquement tirer toutes les conséquences de cette situation. Parce que certains pensent qu'elle n'est pas durable. Je pense au contraire qu'elle est en gros, après les tiers peuvent bouger, mais elle est relativement structurée, cette situation, pour des raisons non seulement économiques et sociales, mais aussi pour des raisons idéologiques.
Jean-Marie Le Guen, très rapidement, question d'actualité internationale, Roselyne Fèvre, avec la Palestine, dont on parle à l'Assemblée nationale.
Et la reconnaissance donc de l'État palestinien, qui va être discutée donc vendredi à l'Assemblée nationale, il y aura un vote le 2 décembre, mais... On voit que ça fait pas consensus à droite. Certains grincent des dents à l'UMP. Mais la question, c'est tout de même que c'est le président de la République qui doit décider, puisque c'est lui qui décide de la politique étrangère de la France. Et dans le fond, ça ne va être que symbolique. Est-ce que là, le président de la République essaye de se servir de l'Assemblée nationale pour prendre une décision ou sa religion est faite ? Est-ce qu'il faut la reconnaissance d'un État palestinien ?
Non, mais attendez, la France a été, j'allais dire de tout temps, c'est exagéré, mais en tout cas depuis 40 ans, et quelles que soient les majorités, pour la reconnaissance d'un État palestinien. La question est de savoir...
À quelles conditions ?
D'une part, et est-ce qu'il doit y avoir une reconnaissance unilatérale par la France ou de l'État palestinien, indépendamment des discussions. Bien, les parlementaires qui ont pris cette initiative, parce qu'en fait c'est des parlementaires qui ont pris cette initiative, ne vont pas faire une reconnaissance de l'État palestinien. Ils vont inviter le gouvernement à le faire. Mais vous avez raison de dire que c'est une prérogative de l'exécutif. Ça, c'est très net dans la Constitution.
Et l'intention, le ministre des Affaires étrangères s'exprimera en l'occurrence, mais la position du gouvernement français n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il est en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, mais il souhaite que cette reconnaissance soit utile à une négociation, à une discussion, à une avancée sur ce terrain.
Merci, merci Jean-Marie Le Guen. On arrive à la fin de cette émission Mardi Politique réalisée par Mathias Golchani avec Audrey Iatoni. À la programmation, très bonne soirée à tous.